l'écriture, sept ont une importance particulière. Le premier, c'est le jugement des péchés accomplis où ? À la croix. Par qui ? Par Jésus. Jean 12, 31. Puis alors, il y a tous les autres passages que vous trouverez vous-même. C'est le jugement qui se rapporte donc à Jésus-Christ qui a porté les péchés des croyants. Il a été élevé sur la croix. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Deuxième jugement, c'est le jugement du croyant, de celui qui a reçu Christ, et qui s'examine lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 31. Quand on prend la scène, il est dit qu'on doit se juger soi-même de tout ce qui n'aurait pas été à la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas communion avec le péché. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Se juger soi-même, donc. Troisièmement, le jugement des œuvres du croyant. Quand le Seigneur sera venu et nous aura enlevés, il est dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Non pas pour être jugés quant à nos âmes, nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne venons pas en jugement. Donc, ce n'est pas quant à nos âmes que nous serons jugés, mais quant à nos œuvres. Et le Seigneur récompensera et donnera à ceux qui ont été fidèles une part dans l'administration de son royaume. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il y a un quatrième jugement, c'est le jugement des individus, membres des nations, au retour de Christ sur la terre. Il va juger les vivants. Matthieu 25. On s'était un peu arrêté hier là-dessus. Verset 22. Parce qu'il y aura toute une évangélisation qui se fera après l'enlèvement de l'Église pour toute la terre. Ce n'est pas l'Église qui évangélisera. Ce sont des hommes nouveaux que Dieu aura choisis. De quel peuple ? Le peuple d'Israël. Quand l'Église aura terminé, Dieu prend ses relations avec son peuple. Alors, Matthieu 25, 22 vous montrera qu'il n'y a pas là de livre ouvert, ils sont jugés simplement d'après leur attitude vis-à-vis de ceux que le Seigneur appelle ses frères et qui auront passé par la grande tribulation. Ensuite, ça c'est Ézéchiel. J'en étais au combien cinquième ? Le jugement d'Israël au retour du Christ. Ici-bas, vous pouvez lire Ézéchiel 20, verset 37, les versets qui l'entourent. 6. Comment ? Le jugement d'Israël au retour du Christ ici-bas. Ézéchiel, chapitre 20, verset 37. Je ne peux pas multiplier les textes. 6. Le jugement de Satan et des anges déchus après le règne de 1000 ans. Jude 6. Verset 7, Jude 6 à 7, puisqu'il n'y a qu'un chapitre. Et puis, septième, le jugement dernier, le jugement des morts ou des impies à la fin de l'histoire du monde actuel. C'est Apocalypse 20. Alors, vous pouvez comparer Apocalypse 20, 12 avec Matthieu 25, et vous verrez que ce n'est pas le même jugement. Ce n'est pas le jugement dernier. Dans Matthieu 25. C'est le jugement des nations. Qui auront entendu l'évangile éternel que vous trouvez au chapitre 14 de l'Apocalypse. Maintenant, c'est l'évangile de la grâce, puis après, il y aura l'évangile du royaume, et cet évangile est l'évangile éternel. C'est toujours le même évangile, si vous voulez, ce sont les vérités fondamentales dans les différents âges que Dieu a employés. Donc, on a vu avec certitude qu'il y avait des âges différents, des manières différentes dont Dieu a parlé, mais c'est toujours le salut par la foi. Vous avez posé une question ? Alors, je vous laisse aller lire et étudier la parole vous-même dans vos chambres. Comment ont été vos ateliers? Pas trop bouleversés? Non, c'était un simple contrat. Vous avez vu que nous avons fait un peu autrement que les autres fois, et à la page 5, nous avions mis plusieurs questions qui pouvaient être traitées au cours de ces journées, mais nous voulions rester très souples et voir sur place ce que nous devions voir. Et la première question, c'était comment lisons-nous la Bible ? Est-ce que nous la lisons occasionnellement ? comme pour trouver un verset, une consolation, qui est bien aussi. Mais si vous voulez connaître la parole, il faut lire la Bible depuis la première page à la dernière. Puis vous recommencez, et cette parole, au lieu de rester dans les pages noires de la Bible, s'inscrit dans nos cœurs. Pourquoi pouvons-nous croire que ce livre est la parole de Dieu ? Parce que Jésus, que nous reconnaissons comme le Fils unique de Dieu, a témoigné de tout l'Ancien Testament et a voulu réaliser toutes les promesses qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. Alors lui ne peut pas se tromper, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le témoignage de Jésus sur l'Ancien Testament est suffisant pour nous. Et puis, qui est-ce qui a choisi les hommes qui ont écrit le Nouveau Testament? C'est Jésus. De sorte que, quand nous lisons la Bible, nous croyons lire la parole de Dieu, l'inspiration de l'Écriture, nous y croyons. Doit-on distinguer le peuple d'Israël de l'Église de Jésus-Christ? Tous ces sujets ont été traités et on pouvait les avoir, et vous pouvez encore les avoir, pas aujourd'hui parce que c'est dimanche, mais dans les petites brochures, les 13 brochures qui traitent tous ces sujets. Maintenant, que savons-nous au sujet de la résurrection? Nous n'avons pas abordé très à fond cette question parce que nous l'avions étudié déjà ici. 5. Le monde se convertira-t-il par la prédication de l'Évangile? Non, n'est-ce pas? 6e question. Avons-nous compris l'enseignement de Jésus sur les paraboles du royaume de Dieu? Nous avons essayé de reprendre ces paraboles hier. Pourquoi l'enlèvement de l'Église n'est pas la manifestation du Christ en gloire? L'enlèvement de l'Église a lieu sans que le monde s'en aperçoive. C'est subi, il prend son Église, il vient à notre rencontre et nous montons vers lui. Puis, quand lui le voudra, nous revenons avec lui pour sa manifestation en moi. Et ça c'est très clair, mais pour cela, il faut lire l'Écriture et s'en imprégner. Et alors vous voyez que tout se place. 8. À quel moment la Bible situe-t-elle la fin du monde ? À cause d'une traduction qui est défectueuse, eh bien, quelquefois, on se trompe. La fin du monde, est-ce que c'est bientôt ?
Non.
C'est quand ? Après les 1000 ans de règne. Il faut d'abord qu'il y ait eu les 1000 ans de règne. Maintenant, peut-on discerner dans le plan de Dieu pour les hommes diverses dispensations ou âges? C'est ce que nous avons conclu aussi. Sommes-nous au clair sur les différents jugements dont nous parlent les Écritures? C'était le sujet sur lequel vous vous êtes penché aujourd'hui. Il nous parlait de beaucoup de jugements dans la parole, et alors nous en avons pris 7 que nous allons considérer encore ce matin, que vous avez considérés. 11. Quand le premier ciel et la première terre auront disparu, qu'est-ce qui commencera ? L'état éternel, vous l'avez compris. Et dans notre conclusion de cet après-midi, nous reprendrons cela clairement. Comment pouvons-nous savoir ce que sera l'état éternel ? Qu'est-ce qui régnera là ? Le ? C'est le Seigneur. Hein? Alors, c'est par la connaissance du Seigneur que nous pouvons savoir ce que sera l'état éternel. Mais moi, je n'en vais pas élaborer là-dessus. Parce que nous exprimerions nos pensées ou nos désirs. Nous faisons confiance à Dieu. C'est lui qui règnera sur ce monde complètement rénové. Alors, comment vivre dans le présent siècle, qui est un siècle mauvais? Comment y vivre? Comme tout le monde? Avec la parole. Laissons vivre le Christ en nous. Et puis, vous sentez-vous concerné par le siècle à venir? Le siècle à venir, c'est le siècle où le Seigneur règnera pendant ces 1000 ans. Mais il nous associera à son règne de justice et de paix dans la mesure où nous aurons été fidèles dans le siècle présent. Comprenez-vous? Et c'est pour ça que c'est très important ce siècle présent quand même pour nous. Un siècle où le Seigneur ne règne pas. Et nous, est-ce que nous pouvons régner? Est-ce que vous voulez un trône où Jésus a eu une croix? C'est pas possible. Nous sommes identifiés au Christ, nous sommes les membres de son corps. Alors quand on nous dit le siècle à venir, ça ne m'intéresse pas, c'est qu'on n'est pas bien engagé avec le Seigneur. Alors, ce matin, nous allons reprendre. Cette question des jugements. Sommes-nous au clair au sujet des différents jugements dont nous parlent les Écritures? Je ne vous dis pas qu'il ne restera pas d'obscurité après ces conférences. Ce n'est pas la prétention d'avoir été toujours clair et de vous avoir tout dit, parce que c'est le travail de toute une vie, mais vous allez continuer cette retraite, même s'il n'y en a plus ici. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais je dis même s'il n'y en avait plus, parce qu'on n'est pas éternel. C'est la question que la sœur m'a posée. Elle aimerait bien que ça continue. Vous aussi? Alors ça, c'est l'affaire du Seigneur. Alors, parmi les jugements je voulais vous dire encore, cherchez et vous trouverez. S'il y a encore une obscurité, cherchez dans la parole. Vous n'avez pas nécessairement besoin de moi. Je ne suis qu'une voix et j'espère ne pas avoir crié dans le désert. Hein. Mais on constate quelquefois, même quand on a écrit quelque chose, les gens n'ont pas lu. Même ce qu'on vous a donné là, certaines ne le lisent pas. Et alors, c'est assez étonnant. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas lire, mais c'est parce qu'on ne lit pas. Et puis quand c'était Jésus lui-même et qui parlait, qui enseignait, et qui leur demandait, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il disait? Oui. Et on constate qu'ils n'avaient pas compris. Mais Jésus ne les a pas abandonnés. Jésus ne les a pas délaissés. Il reprenait les choses. Et l'apôtre Paul, enseigné lui-même par Jésus, lui qui n'avait pas connu le Christ selon la chair, il pouvait nous dire, vous redire les mêmes choses, cela n'est pas pénible, c'est votre sûreté. C'est beau ça, hein? Vous redire les mêmes choses. Répétez, répétez. Alors, vous vous êtes arrêté sur le premier jugement, qui est lequel pour nous? Le jugement des péchés, qui a été accompli par qui? Par Jésus, qui est venu pour cela. Et nous prenons le texte dans le chapitre que j'ai mentionné, chapitre 12, de Jean. Une foule nombreuse de gens venus à la fête, verset 12, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier. Non, mais c'était 31. Je m'excuse. Au verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Quand Jésus a été sur la croix, il est mort pour les péchés du monde. Hein, et le monde a été jugé. Le monde est déjà jugé. C'est pour ça qu'il dit, je ne prie plus pour le monde, parce qu'il a été jugé. Est-ce que vous avez réfléchi? Quand Jésus était là, présent, et qu'il leur a parlé, qu'il les a enseignés, qu'il a guéri, ils ont vu les œuvres de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hôte, hôte, crucifie-le. De sorte que le monde, maintenant, on sait ce qu'il vaut. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tué le Seigneur. Alors, n'aimez pas le monde. Je ne peux pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Qui est le prince de ce monde? Vous l'avez vu, c'est Satan. Mais pour le Seigneur, c'est déjà fait. Hein. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc le désir du cœur du Seigneur, ce n'est pas de perdre les âmes, mais c'est de les attirer. Parce qu'il a payé un prix assez grand. Nous avons été rachetés, non pas avec de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux du Christ. Verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et voyez-vous, il y a dans l'Écriture, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, des paroles qui nous bouleversent et qui nous poussent à l'adoration, parce qu'on ne peut pas comprendre. Il est dit, il fallait que le Christ souffrit ces choses. Il le fallait. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Pour satisfaire la sainteté de Dieu et pour apaiser notre conscience, il fallait que le salaire du péché, qui est quoi ? La mort, intervienne. Et Jésus est mort à notre place. Si je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi. Alors, si je sais cela, est-ce que je vais vivre à ma guise, à ma manière ? Je vais vivre pour qui ? Pour Jésus. Parce que celui qui est mort est ressuscité d'entre les morts. Alors nous nous sommes occupés de la résurrection. Donc ce jugement se rapporte à Jésus-Christ. Il fallait que le Christ souffrit. Luc chapitre 24. Puis il y a un autre passage qui me bouleverse aussi, c'est dans le 2 des Hébreux, il convenait. C'était convenable, pas pour ma raison humaine, hein, mais pour Dieu, c'était convenable. Il convenait que le Christ souffrit pour nous. Donc j'accepte, mais ne comprenant pas, j'adore. Chapitre 2 des Hébreux, verset 9. Celui qui a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait. Voyez, c'est ce texte. En effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait été élevé à la perfection par les souffrances. Lui, le prince de notre salut. Quand je lis ce verset, j'admets que moi aussi, je dois souffrir. Puisque c'était convenable pour Jésus, c'est convenable aussi pour moi. Et je veux laisser le Seigneur me parler par la souffrance. Et c'est surtout dans la souffrance qu'il nous parle, parce que autrement nous sommes assez loin. Donc, il fallait, il convenait. Et puis, le dernier verset dans Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il est dit ? Il plut à l'Éternel de le meurtrir. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Ça plaisait à Dieu. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Vous connaissez tout Ésaïe 53. Donc, voilà, le jugement des péchés que Jésus a subi en étant élevé sur la croix. Maintenant, on a cité un deuxième jugement, le jugement du croyant qui s'examine lui-même. Chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Vous l'entendez dans les lieux où les croyants prennent la Sainte Cène. Habituellement, on lit une partie au moins de ce chapitre 11 des Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Verset 23 du chapitre 11, pour le laisser dans son contexte. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, quelquefois, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi ? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et vous savez, on est replacé chaque fois le dimanche, quand on prend chaque dimanche, devant la mort de Jésus. Et ça, c'est un renouvellement. On n'oublie pas. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, c'est simplement manger un morceau de pain. Ça va. C'est ça pour vous ? Non. Par-delà les éléments, nous avons communion au corps et au sang du Seigneur Jésus. Il n'y a pas besoin d'expliquer cela. Mais nous réalisons que nous faisons partie du corps de Christ et que nous sommes en communion avec tous ceux avec lesquels le Seigneur est en communion. Alors, verset 28, « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, c'est pas moi qui ai dit cela, nous devons discerner par-delà les éléments le corps du Seigneur, il mange et il boit un jugement contre lui-même. » Est-ce que ça a une conséquence ? Oui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, c'est ça le verset, hein, mais on le laisse dans son contexte, parce que c'est cela qui nous explique le mieux, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez, etc. Alors, voilà, ce jugement soi-même, ça correspond en quelque sorte au lavage. Et puis, on a été jugé à la croix, nos péchés ont été jugés, mais maintenant, nous savons bien qu'en marchant dans ce monde, qu'est-ce que nous rencontrons ? Toutes les souillures possibles. Et si nous ne nous en jugeons pas, nous ne devons pas amener nos souillures à la table du Seigneur. Alors on s'en juge. Seigneur, tu vois, quelle pensée j'ai pu avoir ? Je m'en juge. On reconnaît qu'il a raison. Et on reconnaît qu'on avait besoin d'un grand sourire. Et alors il y a une bénédiction, ça c'est certain. Et nos difficultés entre frères ou sœurs ne devraient pas durer plus d'une semaine. C'est vrai ou c'est faux? Oui, alors, dans l'église primitive, ils prenaient la scène tous les jours. Et là, dans certaines églises, on la prend encore tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on y met dans cette scène? Alors, méditez là-dessus. Troisième jugement, c'est le jugement des œuvres du croyant. Quand le Seigneur nous aura enlevés pour nous prendre auprès de lui, nous avons dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens la mention d'un tribunal. Verset 10. Hein. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Le tribunal du Christ, devant lequel je devrai comparaître, va manifester la réalité de ma vie chrétienne. Alors, quand je pense à cela, je veux vivre dans la lumière sur la terre. Parce que je ne voudrais pas que le Seigneur ait à me reprocher quelque chose. Alors je m'en juge. Et ce que le Seigneur fera, il appréciera les œuvres du croyant. Car si on est sauvé, ce n'est pas par les œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Je ne m'appartiens plus quand je suis sauvé. J'appartiens au Seigneur. Et ma vie, elle est pour lui. Dans le travail le plus matériel, vous avez à être au Seigneur. Si vous faites bien dans votre travail, le Seigneur le voit. Et vous savez, ce qui arrivera au tribunal de Christ, c'est qu'on verra bien des personnes passer avant nous et être félicitées par le Seigneur parce qu'elles ont été fidèles dans leur travail. Plus encore que des prédicateurs. Si vous avez reçu comme tâche de balayer la salle ou votre église, si vous le faites bien, le Seigneur vous récompensera. Il n'y a pas une chose petite que le Seigneur ne voit pas. Et vous savez, quand on a été élevé par des parents qui voulaient déjà nous faire comprendre ça quand nous étions tout petits, et que nous avions chacun notre tâche, par exemple balayer les escaliers, c'est tellement facile de se dire, parce que notre mère nous dit, est-ce que tu as fait toutes les marches? Bien sûr que j'ai fait toutes les marches. Comment faire? On a poussé toutes les marches. Est-ce que tu es allé dans les coins? Hein? Alors, on ne peut pas mentir. Et vous savez, ça nous dresse, ça. Nous bénissons Dieu d'avoir eu des parents qui nous ont élevés strictement. Mais on n'avait pas le droit de mentir. Le mensonge, qui en est le père? C'est Satan. Alors, quand vous mentez, soit disant, oh, mais c'est qu'une blague. Un jour. Alors, on vit là-dedans. Puis on aime rire là-dedans. C'est pas la vie du Seigneur, ça. Alors, je sais que je peux avoir tout cela en moi. Alors je m'en juge. C'est tout un travail de Dieu qui s'opère par le Saint-Esprit. Alors, vous pouvez être sûr que le Seigneur n'oubliera rien et que il manifestera la réalité et l'authenticité de notre vie. Mais est-ce qu'il pourrait nous confier une administration si nous ne sommes pas droits, si nous n'avons pas été droits dans le siècle présent? Non. Mais si vous voulez être droit dans le siècle présent, qu'est-ce que vous rencontrerez? La souffrance. Vous aurez la lutte, mais ça, il faut l'accepter. Jésus l'a eu avant nous. Et il l'a avec nous. Maintenant, on passe au quatrième. Le jugement des individus, membres des nations, au retour de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il vient d'abord sur les nuées pour prendre son Église, puis ensuite il revient avec son Église, son corps, pour régner. Et alors, au chapitre 25 de Matthieu, c'est ce que nous avons considéré un peu hier, alors que je me suis trouvé si mal, et je m'excuse de ne pas avoir pu continuer tout de suite. Chapitre 25, verset 31. Jugement des individus membres des nations, c'est pas le jugement dernier. Et c'est ça que vous devez bien saisir. Bon, on va les comparer. Hein. C'est lors de son retour, du retour de Christ sur la terre. Lorsque le Fils de l'homme, verset 31, viendra dans sa gloire. Il est venu une fois dans sa grâce. Hein. Mais quand il revient dans sa gloire, il vient avec qui ? Avec tous les anges. Et ailleurs, il est parlé de tous les saints. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Parce qu'il ne faut pas que vous pensiez qu'avec l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus personne après. Il y aura toute la foule qui n'a pas voulu de Jésus et qui continuera de se marier encore et qui auront des enfants, mais qui n'ont pas entendu la parole. Alors, le Seigneur suscitera des témoins pour ces nations et dans un temps très difficile, puisque c'est l'Antichrist qui règnera, on n'a pas pu en parler cette fois parce que je ne vais pas vous parler d'un homme. Mais c'est l'homme qui voudra prendre la place de Dieu. Et nous allons au-devant de cela. De plus en plus, l'homme veut prendre la place du Seigneur. Et ce qu'il fera à Jérusalem, là encore, nous n'avons pas pu parler beaucoup d'Israël, eh bien, il voudra prendre la place de Dieu. Donc toutes les nations seront assemblées devant lui quand il revient. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Les bénis du Père, ce sont ceux qui ont accepté le Christ. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé quand ? Dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Mais alors les justes répondent, mais quand est-ce que nous t'avons vu ? Avoir faim, et que nous t'avons donné à manger, avoir soif, et t'avons donné à boire. Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, et nu, et nous t'avons vêtu, quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes allés vers toi? Alors la réponse, là j'ai écrit tout un livre là-dessus, c'est le Christ inconnu. Et si vous voulez avoir un commentaire sur cela, vous pouvez encore vous procurer ce livre, Le Christ inconnu, dans les librairies chrétiennes. Alors, le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, ce sont des œuvres qui sont manifestées. Mais il n'y a pas de livre ouvert, là. Tandis que pour le jugement dernier, un livre est ouvert. Là, ils sont jugés d'après leurs œuvres. Ce n'est pas leurs œuvres qui ont donné leur salut, mais étant croyants, ils ont accompli des œuvres. Et ces œuvres, c'était le prochain, qu'on doit aimer comme soi-même. Quand ils ont vu le prochain, dans la peine, ils l'ont secouru. Et c'est tout un chemin merveilleux. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Ce n'était pas pour eux que c'était préparé, c'était pour le diable et ses anges. Mais s'ils vont suivre le diable, comme ils avaient dit déjà que le Seigneur faisait ses miracles par la puissance du diable. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. Alors ils répondirent, mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Qu'est-ce qui attend les nations quand le Seigneur les jugera dans la vallée de Josaphat? Nous lisons ça dans les prophètes. Eh bien, les justes iront à la vie éternelle, c'est-à-dire ils resteront pour le règne, et puis les méchants sont retranchés, ils meurent, et ils se retrouveront au jugement dernier. Comprenez-vous? Ils se retrouveront au jugement dernier. Mais cela, ce n'est pas le jugement dernier. Prenons maintenant les paroles qui concernent le jugement dernier, pour que vous puissiez comparer que ce n'est pas le même jugement. Chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc après les 1000 ans, quand les 1000 ans, c'est ça le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre étant comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais le feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, verset 10, qui les séduisait, parce que pendant 1000 ans, il n'a pas pu séduire le monde, il fut jeté dans les temps de feu et de souffle, ça c'est le jugement de Satan, où sont la bête et le faux prophète. Donc, est-ce qu'on est inconscient dans les temps de feu et de souffre? On est conscient. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais ce n'était pas préparé pour vous. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuir devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection qui a lieu quand le Seigneur vient sur les nuées du ciel pour chercher son Église. C'est là que les morts ressuscitent. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Vous voyez que ce n'est pas le même jugement. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses vœux. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors la question pour nous, est-ce que nous sommes écrits dans le livre de vie? Alors, si nous sommes écrits dans le livre de vie, nous ne passerons pas en jugement. Il faut voir toute l'écriture. Nous ne passons pas en jugement. sinon au tribunal du Christ, pour que nos œuvres soient examinées et que le Seigneur puisse récompenser les siens. Mais donc, le 25 de Matthieu, c'est le jugement des vivants après le retour du Seigneur. Maintenant, prenons le 5, le jugement d'Israël, Ézéchiel 20, verset 37. C'est seulement des indications. Je lirai depuis le verset 33. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je règnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Et je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays d'où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que chacun aille servir ses idoles. Mais après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom, vos offrandes et vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront, et je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. C'est la conversion d'Israël. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations, et vous saurez que je suis l'Éternel. Tous ces jugements amènent le Seigneur à être roi sur toute la terre. Sixième, que nous avions noté, le jugement de Satan et des anges déchus. Monsieur,
est-ce que je peux poser une question
sur
le jugement saint? Est-ce que c'est un jugement, le jugement d'Israël? Est-ce que je peux poser une question?
Oui.
C'est quand ce jugement-là?
C'est après l'enlèvement de l'Église. C'est pour le peuple d'Israël, il y aura...
Est-ce que c'est avant le retour du
Seigneur? Non, c'est après.
Après
c'est après le retour du Seigneur. Parce que la vie ne s'arrêtera pas sur la terre après le retour du Seigneur. Il nous prend, il administre son royaume, mais c'est progressivement que tout sera accompli. Alors tout doit se replacer. Alors, vous pouvez voir dans Jude 6, Jude verset 6, nous disons depuis le verset 5, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc il y a un jugement des anges déchus, et dans un autre passage, il est parlé que les saints, les croyants, associés à Jésus, jugeront les anges déchus. Enfin, le septième jugement, que nous venons de voir déjà, le jugement des morts ou des impies, à la fin de l'histoire du monde actuel. Et quand le monde a disparu, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Il y a des questions ?